je ne savais pas que tu n'étais pas oriental. Tu me l'as dit. D'accord. Il va plus rester grand monde, hein. Pouvoir. Donc il reste que les enfants du Seigneur, c'est ça. Il reste plus les plus jeunes. Alors, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans l'Apocalypse de Jean, au chapitre 1, au verset 7 et 8. Apocalypse de Jean, chapitre 1, versets 7 et 8. Alors, ça ne va pas être un message d'Apocalypse, rassurez-vous, mais on va partir de ces versets 7 et 8. On va prier juste avant. Oui, merci Seigneur pour tes exhortations, Seigneur, et de ce que tu nous utilises tous, Seigneur, pour notre part, Seigneur, pour confirmer que ta parole est vraiment la vérité, Seigneur, qu'elle vient de toi. Et nous voulons te remercier pour cela, Seigneur. Amen. Amen. Donc, dans Apocalypse de Jean, chapitre 1, versets 7 et 8. Donc, voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, et ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Donc, c'est un très beau verset à donner si vous avez un jour des personnes qui... vous rencontrez qui doutent de la divinité de Christ. Alors, je crois qu'ils vont essayer de s'extirper de la difficulté, mais quand même ici on voit ces versets qui nous parlent du Seigneur et qui nous déclarent qu'il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, celui qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Et donc on pourrait parler de ça, de la divinité de Christ. Hein. Christ n'est pas... un simple homme, il est vraiment Dieu qui est venu vers nous, Dieu qui s'est fait chair et qui a habité parmi nous plein de grâce et de vérité. Et c'est tellement essentiel de voir que c'est vraiment Dieu qui était avec nous, qui est encore avec nous, et combien Dieu a voulu être proche de ses créatures. Mais... aussi, il nous est annoncé eh bien, que celui qui est venu une première fois, il va revenir. Il nous est dit, tout œil le verra et ceux qui l'ont percé. Alors, avant de voir ça, on pourrait regarder dans les Actes des Apôtres. Dans les Actes des Apôtres, au chapitre 1. Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 6. Il nous est dit, « Alors les apôtres réunis lui demandèrent, » donc ça vient juste après tout ce que nous a expliqué Étienne avec les bandelettes et la résurrection. Et... donc ça vient quelques jours après, alors je ne suis pas très fort dans les chronologies. Je n'ai pas un esprit très... qui s'attache à ce genre de choses. Ici, il nous est dit, alors les apôtres réunis lui demandèrent, donc Christ est déjà ressuscité, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent « Hommes galiléens, Pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Alors ils retournèrent à Jérusalem de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Donc c'est intéressant parce que ce passage, donc Christ est ressuscité, et les disciples, donc il est apparu aux disciples 40 jours, et puis il est monté au ciel sous leurs yeux. Et ici, c'est très intéressant parce qu'il nous est dit, donc il y a les disciples qui le regardent monter au ciel, et il y a un ange qui leur apparaît et qui leur dit, ne vous arrêtez pas à regarder au ciel, parce qu'il reviendra de la même manière. Et c'est intéressant parce qu'il nous est dit dans le texte qu'il y a une nuée qui l'a dérobée à leurs yeux. Et dans le livre de l'Apocalypse, de Jean, eh bien, il nous a dit la même chose. Voici, il vient avec les nuées. Et tout œil le verra. Et si on regarde un peu plus, les textes bibliques, quand dans les Actes des Apôtres, là où ils étaient, eh bien, c'était à... Alors, je crois que ça le dit même dans les Actes des Apôtres, au chapitre 2, hein, qu'on a lu. Donc, il est parlé du mont des Oliviers. Voilà. Et alors, ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Et dans le prophète Zacharie, eh bien, il est dit que un jour, l'Éternel viendra et qu'il posera son pied sur le mont des Oliviers. Alors, pour nous qui ne sommes pas juifs et qui croyons à la divinité de Christ, eh bien, c'est extraordinaire de savoir que le prophète Zacharie a prophétisé il y a très longtemps que l'Éternel posera son pied sur cette montagne des Oliviers. Et c'est exactement ici ce que les apôtres... Ben eux, ils ont vu Christ qui s'en allait, et ils étaient, quand ils l'ont vu, ils étaient aussi sur cette montagne des Oliviers. Donc on peut être sûr qu'un jour, Christ reviendra, et on en connaît même le lieu, puisqu'il s'agit du mont des Oliviers, qui existe encore aujourd'hui autour de Jérusalem, et... Je suis sûr que notre sœur ici a déjà dû fouler peut-être, alors voir certainement, mais même peut-être fouler ce lieu du mont des Oliviers. Alors quelque part, je n'ai pas envie de parler du livre de l'Apocalypse. Et j'aimerais qu'il s'appelle autrement, ce livre de l'Apocalypse, et... Je sais que dans certaines traductions, je crois qu'il est dit « livre de la révélation de Jésus-Christ ». Parce que finalement, quand on dit « Apocalypse », c'est un mot qui est tellement connoté. Les gens qui ne connaissent pas Christ, ils ont tellement peur, ils n'arrêtent pas d'y penser à l'Apocalypse. Je crois quelque part, ils y pensent peut-être plus que nous. Quand on voit le nombre de films créés par Hollywood qui parlent de l'Apocalypse, c'est étonnant, c'est surprenant. Et moi, je préférerais qu'on ait livre de la révélation de Jésus-Christ, parce que ça permettrait un peu de s'éloigner de tout ce terme qui a été chargé, et qui a été chargé bon, peut-être un peu par les chrétiens, mais beaucoup aussi par le monde, de cette idée de catastrophe. Et même si ce livre, c'est vrai, nous parle d'événements catastrophiques, qui auront lieu. Et c'est intéressant parce que ce texte de l'Apocalypse, eh bien, nous dit que un jour tout œil le verra. Un jour tout œil verra Jésus-Christ. Et il est clair qu'aujourd'hui, eh bien, tout œil ne voit pas Jésus-Christ. Et il nous est même dit dans ce texte, et ceux qui l'ont percé. Alors, ceux qui l'ont percé, je ne pense pas personnellement que ce sont vraiment les gens qui, il y a bientôt 2000 ans, l'ont percé, que ce sont les gens qui étaient autour de la croix qui le verront, quoi qu'ils le verront un jour. Hein. Ils sont même peut-être déjà, d'une certaine manière, ils ont déjà un certain accès à sa présence, mais je ne pense pas qu'ils le voient physiquement. Et je crois que quand il est dit là, même ceux qui l'ont percé, eh bien ça parle effectivement du peuple juif qui le verra. Et on pourrait retourner dans le livre du prophète Zacharie, où il est dit très clairement, très explicitement, que Dieu répandra son esprit sur le peuple d'Israël et qu'ils tourneront les regards vers celui qu'ils ont percé. Et ça, c'est extraordinaire. Hein, cette prophétie, elle est là depuis longtemps, elle attend encore son accomplissement, mais un jour, Dieu répandra son esprit sur ce peuple, sur la maison de David, il est dit très clairement, et ils tourneront les regards vers celui qu'ils ont percé. Et je crois qu'il y a indéniablement dans cette introduction de l'Apocalypse, de la révélation de Jésus-Christ, eh bien, il y a indéniablement, je crois, un écho à cette prophétie de Zacharie. Mais il est dit aussi, donc, ceux qui l'ont percé le verront, donc probablement les Juifs, et par contraste, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Et pour le peuple d'Israël, ce qui nous est décrit dans Zacharie, on peut le lire d'ailleurs dans Zacharie, on va prendre au chapitre 10, livre du prophète Zacharie. Alors, excusez-moi, c'est pas 10, c'est 12. Alors, il nous est dit à partir du verset 6, il nous est dit: « En ce jour-là, je ferai des chefs de Juda comme un foyer ardent parmi du bois, comme une torche enflammée parmi des gerbes. Ils dévoreront à droite et à gauche tous les peuples d'alentour, et Jérusalem restera à sa place à Jérusalem. L'Éternel sauvera d'abord les tentes de Juda, afin que la gloire de la maison de David, la gloire des habitants de Jérusalem, ne s'élève pas au-dessus de Juda. En ce jour-là, l'Éternel protégera les habitants de Jérusalem, et le faible parmi eux sera dans ce jour comme David. La maison de David sera comme Dieu, comme l'ange de l'Éternel devant eux. En ce jour-là, je m'efforcerai de détruire toutes les nations qui viendront contre Jérusalem. Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé, et pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. » Et donc, c'est assez clair ici que pour les Juifs qui resteront à ce moment-là, parce que la Bible annonce que toutes les nations, ou une grande partie des nations s'assembleront contre Jérusalem, que ceux qui seront restés, eh bien, vont se tourner vers Christ pour leur salut. Ils regarderont vers celui qu'ils ont percé, et ce sera une œuvre du Saint-Esprit. Ils regarderont vers lui, ils pleureront amèrement sur lui, comme on pleure sur un premier-né. Mais ça n'est pas quelque chose que le peuple d'Israël fait aujourd'hui. Et personnellement, j'espère que cette attitude qu'auront les Juifs quand Christ va revenir, parce qu'il va revenir, d'après la Bible en tout cas, mais que cette attitude que les Juifs auront quand il va revenir, eh bien ce sera aussi l'attitude de toutes ces autres tribus dont il est parlé ici. Puisqu'il est dit « toutes les tribus de la terre ou tous les peuples de la terre » se lamenteront à cause de lui. Alors vous allez me dire, c'est optimiste, ce serait formidable aujourd'hui si Christ apparaissait et tous les peuples de la terre, eh bien, se tournaient vers lui pour leur salut. Et malheureusement, je ne le dirai pas sur la base de ces versets. Je crois que ça n'est pas assez clair pour le dire sur la base de ces versets. Ça peut être un moment où les peuples se tourneront vers lui, mais d'effroi. Pas forcément pour être sauvés. Et en fait, il est très probable que certains se tourneront dans l'effroi du jugement, d'autres se tourneront vers lui dans la repentance. Et c'est peut-être ce qu'on peut déduire d'autres passages comme Matthieu 25, où il est parlé des brebis et des boucles qui seront assemblées devant Christ quand il reviendra. Mais donc nous avons en tout cas cette certitude qu'un jour les peuples de la terre regarderont vers Christ, soit pour être sauvés ou soit dans leur effroi. Tous les peuples de la terre regarderont vers Christ, aussi bien ceux qui sont en Afrique, ceux qui sont en Corée du Nord où aujourd'hui il y a la persécution, ceux qui sont en Argentine, au Chili, ils regarderont vers Christ qui reviendra. Et malheureusement, ça n'est pas ce qu'ils font aujourd'hui. Aujourd'hui, les peuples de la terre, dans leur détresse, et que ce soit le peuple français ou d'autres peuples, que ce soit les Allemands, que ce soit nos voisins, les Anglais ou autres, en Europe en particulier, quand on est dans la détresse, on ne tourne pas les regards vers Christ. Non, on ne tourne pas les regards vers Christ. Nos sociétés en particulier, ont d'autres ressources vers lesquelles ils regardent, sur lesquelles ils s'appuient. Ça peut être la police, ça peut être la technologie, ça peut être le progrès, les caméras de surveillance vidéo, ou je ne sais quelle autre chose, quel moyen de contrôle. Ça peut être un grand homme, ça peut être un grand politicien. Paul mentionnait les élections aux États-Unis, il y a de grandes attentes chez les Américains d'avoir quelqu'un qui va les aider à rester une puissance et une puissance unie. Et donc il y a de fortes attentes dans le cœur humain, dans le cœur de nos contemporains, je crois en France aujourd'hui aussi. On attend de grandes choses de ceux qui nous dirigent, mais globalement, notre monde, il ne tourne pas les regards vers Christ. Il ne tourne pas les regards vers Christ. Un jour, cela va changer. Un jour, ils tourneront les regards vers Christ. Un jour, ils tourneront les regards vers Christ. Mais il y a certainement beaucoup d'autres choses qui vont devoir se passer avant que cela n'arrive. Alors, j'aimerais parler un peu ce matin de la proportion qu'occupe ce sujet dans la Bible, mais surtout dans le Nouveau Testament, de ce sujet de ce qu'un jour le monde regardera, tournera les regards vers Christ. Est-ce que c'est vraiment un sujet important dans la Bible ou est-ce que c'est un sujet qui n'est pas très, très important? Et aussi, nous dire que dans certains écrits, ça a plus d'importance que dans d'autres. Et pourquoi? Alors, on pourrait procéder livre par livre, dans le Nouveau Testament, en tous les cas. Mais je vais plutôt essayer de dégager la pensée des différents auteurs de la Bible à ce sujet. Alors, est-ce que on va commencer par l'apôtre Paul? Que l'apôtre Paul a écrit l'essentiel du Nouveau Testament, en tout cas l'essentiel des épîtres. Est-ce que Paul parle dans ses épîtres de ce sujet, de ce qu'un jour le monde, les nations, ou simplement Israël, tournera ses regards vers Jésus-Christ? Est-ce que Paul en parle? Et je crois peut-être ça nous surprendra, mais en fait ça n'est pas un sujet qui occupe beaucoup d'espace dans les écrits de l'apôtre Paul. Vous allez me dire, c'est vrai. Oui, en fait, l'apôtre Paul, on voit quand il écrit aux églises du premier siècle, eh bien, ils ne consacrent pas beaucoup, beaucoup, beaucoup d'espace à ce sujet. Alors, vous allez dire, ah bon, pourquoi? C'est étonnant. Si on prend par exemple cette épître magistrale que Paul a écrite, l'épître aux Romains, eh bien, l'épître aux Romains, elle est consacrée à quoi essentiellement? De quoi elle parle cette épître? Cette épître, elle parle du péché qui est entré dans le monde. Et elle parle du moyen de se dégager du péché, d'être libéré du péché. Paul, dans cette épître, l'épître aux Romains, il parle beaucoup de la conversion. Comment être converti, comment se tourner vers Christ et quelles sont les conséquences de la conversion, comment renaître en Christ et comment être délivré du péché. Et c'est vraiment ce qui l'occupe dans cette épître, c'est ce qui prend beaucoup, beaucoup de place. Le grand développement de Paul dans l'épître aux Romains, c'est par rapport au péché, la délivrance, la grâce, le pardon. Mais néanmoins, il en parle un petit peu. Il en parle un petit peu, et on voit que ça n'est jamais quelque chose qui est totalement absent de son esprit. À certains moments, il avait d'autres priorités, mais ça n'est jamais quelque chose qui est absent de son esprit. On pourrait lire Romains 11, 25, Romains 13, 11, où il en parle, et où il parle en particulier par rapport aux Juifs, qu'un rédempteur viendra de Sion et délivrera Israël de ses péchés. Et donc là, je crois qu'il y a une évidence qu'il parle de la même chose que Zacharie, ou qu'ici, qu'il est fait allusion dans l'Apocalypse, qu'un jour, Israël tournera vers ses regards. Israël, qui a été mis pour un temps à l'écart, bien, sera à nouveau, tournera les regards vers Christ. Si on prend une autre épître, ou deux autres épîtres, 1 et 2 Corinthiens, est-ce que Paul, dans ses autres épîtres, passe beaucoup de temps à parler du retour de Christ? Non, de quoi il parle dans 1 et 2 Corinthiens, Paul? Oui, il parle des difficultés dans l'Église, les problèmes que rencontraient les Corinthiens. Parce que les Corinthiens, malheureusement, ils étaient de jeunes convertis qui venaient d'un milieu païen très difficile, où il y avait beaucoup de débauches, de péchés, d'idolâtrie, possibilité d'adultère de mille manières. Et Paul, vraiment, il traite de ces sujets ces jeunes chrétiens. Il leur parle du mariage, il y a un assez grand développement sur le mariage. Il les met en garde contre le culte des idoles, sur des choses très, je dirais, un peu éthiques. Il parle des dons spirituels. Il parle de la résurrection aussi, et c'est vrai que lié à la résurrection, il y a inévitablement le retour de Christ qui est là, puisque les deux sont ensemble. Mais il parle surtout de ce qui arrivera à notre corps quand Christ reviendra. Donc il donne un angle, il a un angle très particulier qui est celui de la résurrection d'entre les morts. Dans 2 Corinthiens, à nouveau, il s'attache au problème des Corinthiens, la séduction où ils étaient, par des personnes qui leur donnaient de faux enseignements. Ils les encouragent parce qu'ils se sont repentis de leurs péchés, ils sont revenus à eux-mêmes, ils abordent différents sujets, et à la fin, malgré tout, il dit, « Viens, Maranatha, notre Seigneur vient. » Donc on voit que si Paul avait parfois d'autres priorités, eh bien cette pensée du retour de Christ, malgré tout, n'était jamais loin de ses pensées. Ça n'était jamais loin de ses pensées. Mais en même temps, c'est très intéressant parce que ça révèle quelque chose sur l'apôtre Paul, c'est qu'il savait organiser sa pensée, il savait faire face aux problèmes de ses auditeurs. Après, on pourrait prendre toutes les autres épîtres de Paul, on pourrait prendre Philippiens, Colossiens, Éphésiens, et on verrait que finalement, ça n'est pas le thème central de ces épîtres, même si c'est abordé peut-être rapidement sur un ou deux versets, eh bien, ça n'est pas ce qui préoccupe le plus Paul. Vous allez me dire, c'est pas possible. Alors finalement, là où il aborde le plus cette question, eh bien, c'est dans 1 et 2 Thessaloniciens, où là, il parle de la résurrection, parce qu'il y avait des personnes qui étaient troublées par rapport à la résurrection. Et dans 2 Thessaloniciens, il en parle, parce qu'il y avait des personnes qui avaient dit, on peut prendre 2 Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens. Je ne l'ai pas retrouvé. Voilà, 2 Thessaloniciens, chapitre 2. Il nous a dit, pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens, de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelque parole ou par quelque lettre que l'on dirait venir de nous comme si le jour de Christ était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Alors là, Paul en parle beaucoup plus. Pourquoi ? Parce que c'était nécessaire, parce que les Thessaloniciens faisaient face à une séduction, des gens qui leur disaient « Ah, mais ça y est, le jour de Christ, le retour de Christ est là !» Les mêmes qui avaient arrêté de travailler, qui avaient dit « Ah, ben, c'est bien, Christ est là, on laisse tomber tout ce qu'on faisait. » Et Paul, il leur dit « Non, Christ n'est pas encore là, le retour de Christ n'est pas là, il faut qu'il y ait quelque chose qui arrive. » Auparavant. Alors on pourrait lire 1 et 2 Timothée, où là ce sont des épîtres considérées pastorales, et on voit que c'est là, le retour de Christ est là, mais ça n'est pas forcément, encore une fois, le centre. Dans 1 et 2 Timothée, le centre, eh bien, c'est comment instruire l'Église, comment veiller sur l'Église, comment l'Église doit s'organiser, des choses encore très pratiques. Alors vous allez me dire, ben, quand même, si l'apôtre Paul il n'aborde pas plus ce sujet, c'est que peut-être ce n'est pas un sujet aussi important que ça. Et je dirais, bien non, c'est que Paul faisait face à différentes situations et il savait comment faire face à ces situations. Mais Paul n'était pas quelqu'un qui naviguait dans le brouillard. Et il n'était certainement pas quelqu'un qui n'avait pas une vision claire sur ce qui doit se passer par rapport au retour de Christ. Et ça, dans Thessaloniciens, il le dit très clairement, Thessaloniciens, vous connaissez vous-même les temps et les moments, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Vous savez bien que le retour de Christ viendra comme un voleur dans la nuit, quand les hommes diront paix et sûreté, eh bien une ruine soudaine les surprendra. Donc Paul avait une vision très claire, mais en même temps il n'était pas obsédé par ces choses. Paul n'était pas ce qu'on peut appeler un joueur de banjo à une corde. Et j'ai entendu cette semaine cette expression dans quelqu'un qui prêchait donc un message que j'ai vu sur internet. Il disait il y a des personnes qui sont des joueurs de banjo à une corde, c'est des prédicateurs, c'est des joueurs de banjo à une corde. Ils vont vous parler toujours de la même chose. Et il peut y avoir des joueurs de banjo à une corde sur, je ne sais pas, sur les dons spirituels, sur le retour de Christ, sur... En général, en plus, c'est sur des choses qui ne sont pas essentielles et des personnes qui ont nécessairement, ils ont un dada, ils vont toujours vous parler de la même chose. Et Paul savait aborder toutes sortes de sujets, il savait... à donner les conseils appropriés à chaque église par rapport à ce dont elle avait besoin. Quand il a fallu aborder ce sujet pour les Thessaloniciens, eh bien, il a abordé ce sujet clairement. Alors, on peut dire maintenant Pierre, l'apôtre Pierre. Est-ce que l'apôtre Pierre parle dans la Bible du retour de Christ ? Est-ce que c'est son espérance ? Bien sûr, c'est son espérance, comme l'apôtre Paul, c'est son espérance. Et en fait, si on regardait les deux épîtres de Pierre, eh bien on verrait qu'en proportion, l'apôtre Pierre, le premier pape, mais non, on sait qu'il n'est pas le premier pape, mais étrangement, eh oui, l'apôtre Pierre, eh bien ça occupe un plus grand espace dans ses épîtres, le retour de Christ, que l'apôtre Paul, proportionnellement. Ce qui n'est pas forcément très significatif, mais voilà, il en parle plusieurs fois dans sa première épître, puis dans sa deuxième épître, il y a toute la fin de sa deuxième épître est consacrée à ce sujet. On peut regarder 2 Pierre, la fin de 2 Pierre. De Pierre, chapitre 3, tout est consacré à ça. Il dit, voici déjà bien aimé la seconde lettre que je vous ai écrite. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur enseigné par les apôtres. Sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise et disant, où est la promesse de son avènement ? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Et donc il continue, il développe ce sujet donc dans un chapitre entier. Donc proportionnellement, oui, ça occupe un espace important des épîtres qu'il nous a laissés. Pierre aussi certainement savait adapter son langage et ses préoccupations aux préoccupations de ses auditeurs. Et le Saint-Esprit nous a donné un chapitre entier ici dans l'épître de Pierre. Jean, l'apôtre Jean, bien dans l'évangile de Jean, déjà on a cette merveilleuse promesse. Voici, je m'en vais, mais je reviendrai et je vous prendrai avec moi dans Jean, c'est chapitre 14. On peut regarder Jean chapitre 14. Au premier verset. Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque j'en serai allé, que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais, vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas, comment pouvons-nous savoir le chemin ? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Et donc il continue, si vous connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père, et dès maintenant vous le connaissez et vous l'avez vu. Et donc, même si c'est encore une fois pas quelque chose de très volumineux, nous dirions, je crois que c'est quelque chose qui résonne dans nos cœurs, cette promesse de Christ. Je m'en vais, je vous prépare une place, et afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Il dit, je reviendrai. Donc c'est quelque chose de formidable. Il ne faut pas beaucoup de paroles au Seigneur, je crois, pour remplir notre cœur, surtout si on a soif de lui. Et si on regardait dans les épîtres de Jean, eh bien oui, Jean... Il en parle dans sa première épître, il parle de l'amour chrétien, les manifestations de l'amour chrétien, mais il dit aussi « Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. » Et il parle du retour de Christ. Mais alors vous allez me dire, mais qui parle du retour de Christ dans la Bible ? Eh bien c'est Christ lui-même. C'est Christ lui-même qui nous parle de son retour. Et celui certainement qui a le plus parlé de son retour dans toute la Bible, dans tout le Nouveau Testament, eh bien, c'est notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. Et il en a parlé à ses disciples et il leur a dit, je vais m'en aller, je vais partir, mais il leur dit, je reviendrai afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Et aujourd'hui, nous avons sa présence par le Saint-Esprit. Mais finalement, c'est quelque chose qui préoccupait Christ, le fait qu'il allait revenir, le fait qu'il allait nous prendre avec lui. Et si on veut trouver l'enseignement le plus développé sur cette question, le retour, la seconde venue de Jésus-Christ, eh bien, nous devons lire les évangiles, Matthieu 24, Luc 21, Marc 13, et en fait, un peu partout dans les évangiles, Christ y fait souvent allusion, parce qu'il va, revenir, il l'a promis. On pourrait regarder Dans l'évangile de Matthieu, il y a beaucoup d'exhortations. On pourrait regarder dans, il y a Matthieu 24, il y a Matthieu 25. Mais j'aimerais juste regarder le verset 14 du chapitre 24. Il nous dit, Christ nous dit, « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. » Alors, il y a bien sûr beaucoup de détails qui sont donnés dans Matthieu 24. Mais les apôtres, au début du chapitre, ils avaient posé la question, « Mais Seigneur, on va regarder. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, « Voyez-vous tout cela, je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ?» Enfin, c'est même pas du monde. Je sais qu'il y a les témoins de Jéhovah, par exemple, qui ont traduit de la fin de ce système de choses. Et quelque part, c'est pas entièrement faux. C'est vrai que c'est un système de choses qui va changer. On peut traduire la fin du monde. Mais c'est l'avènement surtout d'un monde nouveau, le retour de Christ. Mais Christ a dit au préalable, il a dit « Cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. » Alors viendra à la fin. Et s'il y a bien quelque chose qui tient à cœur à Jésus-Christ, eh bien c'est que cette bonne nouvelle, l'Évangile, soit prêchée à toutes les nations. Et Christ n'a pas dit qu'il reviendrait avant que cela ne soit accompli. Il a même très clairement dit, hein, il a dit « Cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. » Avant qu'il ne revienne, eh bien, nous avons la certitude et nous avons aussi le devoir d'annoncer cette bonne nouvelle à toutes les nations. Et nous pouvons être certains que cela sera accompli parce que c'est sa volonté, que toute personne sur la terre, en tout cas que tous les peuples entendent parler de Jésus-Christ et de qui il est. Et quelque part, eh bien, c'est en train de s'accomplir aujourd'hui. Je suis sûr que si on demandait à Daniel, il dirait, bah oui, c'est en train de s'accomplir aujourd'hui d'une manière exceptionnelle. Alors, moi, je ne sais pas. Je ne sais pas quand est-ce que le Seigneur va revenir, mais certainement nous voyons beaucoup de choses qui annoncent qu'il va revenir. Et lui, il ne va pas. Christ va revenir, oui, il va revenir, certes, dans un moment difficile pour les nations, mais je crois que c'est comme ce que nous a dit notre frère tout à l'heure, s'il va revenir et s'il va permettre que bien des choses changent et disparaissent, eh bien c'est pour faire quelque chose de meilleur et de nouveau. Il a dit, je fais toute chose nouvelle. Et ça, c'est sa promesse. Cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin.